La résurrection. Lecture de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 10. Lorsque vous étiez morts en vos fautes et en vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois, suivant le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, qui est l'esprit qui agit maintenant avec efficace dans les enfants rebelles, entre lesquels aussi nous avons tous conversé autrefois, dans les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées. Et nous étions de notre nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, par sa grande charité de laquelle il nous a aimés, lors, dis-je, que nous étions morts en nos fautes, il nous a vivifiés ensemble avec Christ, par la grâce duquel vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin qu'il montrât dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce, par sa bonté envers nous, par Jésus-Christ. Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient point de vous, c'est le don de Dieu, non point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, étant créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées, afin que nous marchions en elle. Il est écrit, « La foi est une représentation des choses qu'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit point. » C'est-à-dire qu'elle possède cette double vertu, de rendre présentes les choses futures et visibles les invisibles. Or, s'il y avait un fait dans lequel cette double vertu de la foi se trouva réalisée, et comme incorporée, ce fait, ajoutant à la puissance de la foi la clarté de la réalité, ne serait-il pas le fondement même de toutes nos lumières et le plus ferme appui de notre espérance? Ce fait est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Écriture commence par unir tellement le chrétien à son Sauveur, par la foi, que ce qui lui arrive nous arrive, et que son histoire se reproduit intérieurement, mais essentiellement dans chacun de ses enfants. S'il meurt, nous mourons. S'il ressuscite, nous ressuscitons. S'il monte au ciel, nous y montons. Et c'est par là que nous sommes sauvés, parce que nous sommes faits par la foi un avec Christ, qu'il n'est pas permis de chercher ailleurs que dans la vie et dans la gloire éternelle, ce qui nous oblige à nous y chercher aussi, nous qui sommes un avec lui par la foi. Mais voici que Jésus-Christ, après avoir vécu et être mort sous les yeux des hommes, ressuscite aussi sous leurs yeux et se montre encore aux hommes après sa résurrection. C'est-à-dire que la résurrection de Jésus-Christ, qui nous appartient comme tout le reste, devient un événement visible, qui rend visible notre propre résurrection, d'invisible qu'elle était. Vous vous rappelez ces hérétiques dont parle saint Paul, qui disaient que la résurrection est déjà arrivée, la considérant comme une chose purement spirituelle. Ils sont en opposition flagrante avec la doctrine de l'Évangile qui fait de la résurrection de notre Sauveur et de celle dont nous devons jouir après lui et avec lui un fait réel, matériel, corporel, et qui, dans la résurrection de notre Sauveur, nous montre déjà, comme à l'œil, notre résurrection. Quelle immense bénédiction et privilège, n'est-ce pas, pour le chrétien, que de contempler en Jésus-Christ visiblement ressuscité sa propre résurrection, qui semble invisible, qu'il est dans un sens, mais qui devient visible dans son Sauveur. Elle est ainsi élevée au-dessus, je ne dis pas des doutes, mais des difficultés même de la foi, et devient un fait patent, saisissable, que nous trouvons en Jésus-Christ et que nous nous appliquons à nous-mêmes. Et en même temps, car je ne puis dans l'état où je suis qu'indiquer les pensées, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ convertit un événement futur en un événement présent et même passé. S'il n'était pas ressuscité des morts, nous contemplerions toujours la résurrection comme quelque chose à venir, et par cela même présentant toujours quelque chose d'obscur et d'insaisissable, quoique les promesses de Dieu fussent certaines en soi. Mais ici, Dieu a joint à la promesse un fait historique. Jésus-Christ est ressuscité. Le voilà, on l'a vu. Et notre résurrection, qui est unie avec celle du Seigneur et qui en dépend, devient ainsi elle-même un fait historique, un fait présent, un fait passé. C'est pourquoi saint Paul dit « Nous sommes déjà ressuscités ». Ainsi, par la résurrection de notre Sauveur, notre salut est rendu d'invisible visible, de futur présent. Que pourrions-nous demander de plus? Il n'y a que le chrétien qui puisse posséder ainsi une ferme assurance de sa réconciliation avec Dieu et de sa félicité éternelle, parce que les choses invisibles ont passé dans le domaine des choses visibles et présentes, dont il jouit en les contemplant en quelque sorte de ses yeux et en les saisissant dès à présent. Aussi, vous pouvez remarquer, mes chers amis, que partout où la résurrection de notre Sauveur est mise dans l'ombre, l'assurance de notre salut l'est aussi. Ainsi, dans l'Église romaine, où l'attention est appelée constamment sur la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et non pas sur sa résurrection, où la cérémonie essentielle et principale de l'Église, la messe, est la célébration de la mort de Jésus-Christ, il n'y a pas d'assurance du salut. On se ferait même scrupule d'être sûr de son salut comme d'une sorte d'orgueil, et l'on tord certains passages de l'Écriture pour leur faire dire qu'il n'est jamais permis d'être assuré de son salut, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de paix, jamais d'espérance ferme pour le chrétien. Malheureusement, il y a bien des protestants qui ne sont pas plus avancés et qui ne peuvent pas se réjouir dans l'assurance de leur salut. Cela vient de ce qu'ils ne contemplent pas Jésus-Christ ressuscité des morts, et maintenant vivant, intervenant entre Dieu et nous, et les choses qui se passent entre Dieu et notre âme comme des choses vivantes, présentes, historiques. Mais le chrétien, éclairé sur la résurrection de notre Sauveur, jouit de l'assurance de son salut. Il en est aussi sûr qu'il est sûr que Jésus-Christ est ressuscité, et pour le faire douter de son espérance éternelle, il faudrait commencer par le faire douter que Jésus-Christ est ressuscité des morts. C'est pourquoi le jour que nous célébrons aujourd'hui, la Pâque, est le plus grand jour de l'année chrétienne, et l'événement que nous rappelons aujourd'hui est non pas un événement du royaume des cieux, mais l'événement du royaume des cieux. C'était la résurrection de notre Sauveur que les apôtres s'appliquaient essentiellement à enseigner. Et nous, mes amis, saisissons cette résurrection, vivons avec Jésus-Christ ressuscité et nous jouirons de ce précieux privilège. Mais en même temps, n'oublions pas à quel prix cette résurrection a été acquise et par quel chemin Jésus-Christ a passé, afin que nos cœurs ne savourent le bonheur de cette assurance que dans un sentiment profond de reconnaissance et d'amour pour celui à qui nous le devons. Recevez ces quelques paroles dans l'amour du Seigneur comme je vous les adresse. C'est tout ce que je suis capable de vous dire. Et appliquons-nous les uns et les autres à les développer devant lui dans le silence de la prière et dans l'étude de la parole de Dieu, au pied de Jésus-Christ ressuscité et dans l'amour de Jésus-Christ crucifié. Amen.